na 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 Mr. Officer, still living like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, it's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me, see every time. Here comes the hot sniper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number.
Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Je vous présente tous mes vœux pour l'année 2024. Santé, surtout la santé, joie et bonheur. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'inviter quelqu'un qui est fort intéressant, qui s'appelle Doan Lou, d'origine vietnamienne. Et quand j'ai eu, on en avait discuté, quand j'ai eu son CV, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir, on va pouvoir discuter de tout sur 45 minutes d'émission que nous avons. Doan, je te dis bonjour, je te remercie d'être là.
Merci, bonjour Jean-François, merci beaucoup de ton invitation.
Et on va commencer à discuter, on ne va pas perdre de temps. Alors, Doan, tu es d'origine, tu interviens quand tu veux, tu es d'origine vietnamienne. D'accord. Et tu es arrivé en France, on va dire en France, peut-être pas directement à Montpellier, tu es arrivé en France...
À l'âge de 6 ans. À l'âge de 74, si je me souviens bien. Ouais. Avec ma maman, mes grands-parents, tout simplement parce qu'il y a eu la guerre au Vietnam. Mm-hmm. Donc, nous, on habitait...
Boat people.
Alors, on n'était pas des boat people. Il faut bien... Ça, je le précise tout le
d'accord,
temps.
D'accord, d'accord.
Les boat people sont partis dans des conditions extrêmement dramatiques. C'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment la mer avec des vieux rafiaux, etc. Ils ont été recueillis, par exemple, par M. Kouchner. Hein. Il faut quand même lui rendre hommage. Hein. Mm-hmm. Et nous, par contre, on a eu la chance, en fait, puisque mes grands-parents étaient fortunés, de partir dans un paquebot, hein, dans un, avec des porte-conteneurs, etc. Et après, on est arrivé, si je me souviens bien, en Thaïlande, dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Et après, puisque ma famille avait de la famille en France, on a pu être accueilli par ma famille en France.
Donc, dès l'âge de 5 ans, tu es accueilli en France et tu arrives à Montpellier quelques années après.
Tout à fait. J'arrive en 2002, beaucoup de temps après avoir fait mes études à Lyon, puis après un séjour à l'étranger, puisque je suis chercheur. Et j'ai pris en fait un poste de chercheur au CNRS, mmh, ici à Montpellier en 2002.
D'accord. Alors, avant d'aborder donc le thème de ton professionnel, hein, donc ça s'est fait difficilement quand même, donc l'arrivée en France, parce que la maîtrise de la... Tu ne savais pas parler français, mmh, ou peut-être très peu. Comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que tu as bien été accueilli? Comment ça s'est passé?
Eh bien, je voudrais juste te donner à toi et aux éditeurs, aux auditrices, une petite anecdote. Le terme de volcan, nous, en vietnamien, la traduction littérale, c'est montagne de feu. Eh bien, je me rappelle très bien, quand je suis arrivé en... Donc, c'était en France, à l'école. La maîtresse disait, oui, c'est volcan, c'est le terme qu'on utilise. Et moi, je tenais tête à la maîtresse en lui disant, non, c'est montagne de feu. On dit montagne de feu, parce que je faisais la traduction littérale du mot volcan en vietnamien. Alors, il faut bien voir qu'en fait, pour des étrangers, des enfants étrangers qui sont accueillis en France, il y a tout un dispositif qui est leur permet de s'intégrer assez rapidement. Moi, j'en garde un assez bon souvenir, en fait. Hein. C'est de copains, etc., une bonne ambiance. Alors, après, il y avait des aspects plus économiques, plus... bon, mais ça, c'est autre chose. Ce qu'il faut bien voir, c'est que des populations comme celle-là qui arrivent en France, elles ont tout perdu de leur pays. Et concernant les Vietnamiens, eh bien, mes grands-parents, ils ont, pour pouvoir travailler, ils ont ouvert un restaurant. Parce que pour pouvoir vivre de son travail, la première des choses que nous, on peut faire, c'est tout simplement faire la cuisine. C'est ça qu'on sait faire le mieux. On peut pas soigner.
Vous la faites bien aussi.
J'espère. Et donc mes grands-parents et ma mère, ben, ils ont ouvert des restaurants pour pouvoir. Voilà. Donc c'est la première des activités.
L'intégration par le travail.
L'intégration par le travail. Et il ne faudrait pas que je le dise parce que.
On peut tout dire. Sur cette chaîne, tout est permis. Dire,
voilà. Donc moi, quand j'étais ado, ben, j'ai aidé mes grands-parents, enfin en particulier ma mère plutôt, au restaurant. C'est-à-dire que bon, ouais, je me rappelle de certains samedis soirs.
C'est tout en ton honneur.
Voilà. Donc,
c'est tout en ton honneur. Voilà. C'est bien. Donc, tu as grandi un tout petit peu et puis tu vas faire le service militaire. Alors, bon, jusque-là, rien de passionnant. Hein. On a tous fait le service militaire. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que tu l'as fait volontairement, donc dans l'ex-Yougoslavie, dans les casques bleus. Explique-nous pourquoi ce choix et ce que ça t'a apporté.
Alors, donc, la Yougoslavie, à l'époque, c'était une fédération et puis elle a explosé en vol. Hein, voilà, après le décès du maréchal Tito.
Du maréchal Tito.
Voilà, et donc elle a explosé en vol, mais en particulier il y a eu des atrocités, c'est-à-dire que toutes ces communautés, en fait, bon, basées sur des aspects religieux.
Mmh. Oui, d'un côté donc les musulmans, et de l'autre côté donc les catholiques.
Les catholiques, il y avait aussi les orthodoxes.
Et les orthodoxes.
Les croates étaient des orthodoxes. Et donc ils se sont tapés dessus, il y a eu des atrocités. La communauté internationale est intervenue puisqu'il y a eu des casques bleus, et en particulier il y a eu un philosophe français, Bernard-Henri Lévy, je me rappellerai toute ma vie parce que, effectivement, qui a appelé en fait la France à intervenir. Donc c'est pour ça que, entre autres, François Mitterrand a envoyé tout un contingent. Et en particulier, il y a eu le général Raphaël Morillon qui commandait. Bon, alors, je suis désolé, je donne des détails.
Non, je t'en prie.
Et un jour, lors de mon service militaire, en fait, je vois ce général monter sur son véhicule de combat, casque bleu. Disant à la population de Srebrenica, on est là pour vous défendre. Et malheureusement, quelques temps après, ils ont dû se retirer et il y a eu un massacre. Moi, j'étais extrêmement touché, ému. Et je me suis dit, bon, ben voilà, il y a quelque chose à faire là. C'est bien de nettoyer son fusil tranquille au service dans un campement. Voilà, ben, soyons utiles. Soyons utiles à notre société, à la France et tout ça. Et, voilà. Et donc, je me suis engagé.
Combien de temps ?
Alors, ça a duré en fait 6 mois.
6 mois.
C'était donc à
Mandat. Tu étais où ? Tu étais basé où ?
C'était à Bihać.
Bihać,
c'est une ville qui se trouve en Bosnie-Herzégovine.
D'accord.
Voilà. C'est juste la Corne qui est presque à la frontière avec la Croatie. Et, alors, très franchement, nous, on était là juste pour assurer la protection des convois humanitaires. Donc, ça veut dire, c'était des camions avec des sacs de farine. Oui. On a donné évidemment des coups de main pour charger, etc. Mais très sincèrement, je crois qu'on a eu des coups de feu peut-être une ou deux fois. Hein. On a eu des menaces une ou deux fois. Donc, c'était très, très, très calme. Je tiens à préciser. Hein.
Ouais. Même si tu étais peut-être préparé à ça, ça a dû quand même te choquer. Parce que là, tu devais avoir une vingtaine d'années. Ça faisait déjà 15 ans que tu étais en France. Donc, pays calme, sans problème. Et passer... à quelques kilomètres, quelques milliers de kilomètres de Paris, de voir ces atrocités, ça a dû quand même si tu étais préparé, ça a dû quand même te choquer.
Oui, oui, c'est vrai, mais il y avait quand même quelque chose qui m'animait, qui me disait, ben voilà, il faut être utile. Alors, je ne te cache pas que ma mère était morte d'inquiétude. Elle ne voulait absolument pas que je parte, hein. Elle était morte d'inquiétude. Mais je lui dis, ah, on m'a dit que ce n'était pas comme à Sarajevo, donc c'est plutôt calme. Entre guillemets.
Tu avais fait le job, quoi.
Hein. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de donner un sens à ma vie en termes d'essayer de faire quelque chose.
Ouais. Parce que c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est là ou si c'est déjà ton caractère, mais c'est vrai qu'on va le voir après dans la deuxième partie de l'émission, tu aides beaucoup. Tu es dans les associations. Alors est-ce que ça, c'est peut-être dû à ce que tu as vu, est-ce que tu as fait en Bosnie ?
Certainement. Alors c'est peut-être aussi un devoir de remerciement vis-à-vis de la France. De la, voilà, moi je le dis très très franchement. Hein. J'ai été accueilli à l'âge de 6 ans avec ma famille. Voilà. Et puis au niveau de mes études, j'ai été aidé aussi par des bourses d'études. Voilà, donc il faut aussi le souligner hein, qu'on a un système qui est extrêmement protecteur et qui permet l'ascenseur social, l'ascension sociale, si on saisit cette opportunité, si on la saisit. Voilà. Et si le contexte fait qu'on ne subit pas des pressions, des discriminations qui font que on rate des occasions de saisir ces opportunités.
Est-ce que c'était peut-être plus facile avant, de ton temps, que peut-être maintenant?
Ou peut-être que je fais partie d'une ethnie qui est, comment dirais-je, qui subit peut-être, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais peut-être que, bon, moi j'ai eu cette chance, et puis peut-être aussi l'éducation avec une maman qui veillait au grain.
Alors, tu as été donc tu es venu en France, tu avais 5 ou 6 ans, mais ça ne t'a pas empêché, outre le fait que tu sois parti avec les casques bleus, de faire un peu le tour du monde avec ton métier, le Canada, oui. Et d'autres pays, avant de revenir en France.
Oui, tout à fait. Les chercheurs en France, ou les enseignants-chercheurs en France, ont la particularité qu'on les incite après leur doctorat, donc c'est la fin, c'est le diplôme qui couronne en fait les études de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, d'aller faire ce qu'on appelle un stage postdoctoral, c'est-à-dire en fait un contrat à durée déterminée dans un laboratoire à l'étranger. Ça finalise leur formation. C'est bien parce qu'en fait, ça nous fait découvrir notre pays, notre langue, notre façon de fonctionner.
Tout à fait.
Et donc, moi, j'avais choisi, effectivement, le Canada. Alors, ça va peut-être te faire rire, mais pendant ma thèse, moi, j'avais travaillé sur le chou fourrager. Ce qu'on appelle le chou fourrager, c'est le chou qu'on donne aux animaux. Et puis, au Canada, je travaillais sur la pomme de terre. Hein. Voilà, le Solanum chocoense, pour être très précis. Et puis beaucoup de mes copains m'ont dit, bah, avec ça, tu vas pouvoir faire une potée avec un chou de la pomme de terre.
Pommeter au merde. Voilà,
donc effectivement, ça. C'est, et en plus, c'était un endroit très très beau, puisque j'ai fait mon stage postdoctoral à Montréal.
Ah oui, c'est magnifique, Montréal.
Et en particulier au Jardin botanique de Montréal, que je vous recommande.
Je connais. Et même le Québec, c'est magnifique. Je veux dire, toute l'anse de Montréal jusqu'au village de Québec, c'est magnifique. Et donc là, tu étais dans ton cursus, mais tu as commencé donc... Enfin, est-ce que tu étais dans les plantes ou tu étais sur autre chose? Tu étais à la pomme de terre, mais tu faisais quoi exactement sur la pomme de terre?
Comment expliquer j'ai travaillé en fait sur... Il ne faut pas que les auditeurs ou toi-même soient surpris de ça. J'ai travaillé sur la sexualité des plantes.
Ouais, je t'en prie.
La sexualité des plantes.
Tu peux développer.
Voilà, donc...
Ça, tu l'avais choisi, ça?
Oui,
ce thème-là, tu l'avais choisi.
Oui, parce que... Alors, donc dans l'imaginaire, tout le monde dit, les garçons naissent dans les choux, je crois, et les filles dans les roses, voilà. Moi j'ai travaillé sur la sexualité des plantes dans le sens où la reproduction des plantes s'effectue au niveau des fleurs. Voilà, l'organe de la reproduction chez les plantes, c'est les fleurs.
C'est les fleurs.
Voilà. Et au niveau d'un grand nombre de plantes, les fleurs sont constituées d'une partie mâle et d'une partie femelle. Mm-hmm. La partie mâle, c'est les grains de pollen. Les parties femelles, c'est ce qu'on appelle le pistil qui est au centre. Pour que ça puisse se réaliser, ça, il faut qu'il y ait, par exemple, le vent ou les abeilles ou des choses comme ça qui font que le grain de pollen va se déposer sur le pistil. Et après, il va y avoir la fécondation, formation d'une graine qui contient donc l'embryon. Et donc, cette graine va donner naissance à une nouvelle plante. Donc, cet aspect-là, cette reproduction, ces interactions entre le pollen et le pistil, c'est exactement mon sujet de travail pendant ma thèse et mon stage postdoctoral à Montréal.
D'accord. Et là, donc le sens de ta thèse, c'était quoi?
C'était de comprendre comment s'effectuaient les croisements interspécifiques. Ce qu'on appelle les croisements interspécifiques, c'est une plante d'une espèce A peut-elle ou pas se croiser avec une plante d'une espèce B?
Oui.
Alors, encore une fois, pour faire de la vulgarisation, on sait qu'il y a des espèces d'animaux qui peuvent se croiser. Par exemple, le cheval et l'âne peuvent se croiser pour donner alors, je ne sais plus quel est le terme qu'on utilise pour désigner l'hybride, hein, l'animal hybride entre ces deux espèces. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est possible. Eh bien, figure-toi que chez les plantes, c'est aussi possible. On a ainsi découvert que le chou fourrager, le chou qui existe sur le territoire français,
oui.
Et en particulier en métropole, pardon,
oui.
Pouvait se croiser avec un chou qui vient de Corse. Alors, tu veux me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Quel intérêt de ça? Alors, il faut quand même savoir que la Corse est quand même séparée du continent par la Méditerranée. Et comment est-ce que c'est possible que deux espèces soient géographiquement éloignées et puissent se croiser encore ? Voilà, c'était tout le sens de mon travail de thèse.
De thèse ?
Et pour aller plus loin au niveau du stage postdoctoral, je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'auto-incompatibilité. Alors ça, on va entrer beaucoup dans le détail là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'espèces ne peuvent pas s'auto-polliniser.
D'accord.
Donc, je te donne un exemple. Par exemple, le cerisier,
oui.
Le cerisier ne peut pas s'auto-polliniser. C'est-à-dire que le pollen de la fleur du pied de cerisier ne peut pas venir féconder la fleur de cerisier du même pied.
Et pourquoi ?
Il y a un mécanisme qui s'appelle l'auto-incompatibilité. Incompatibilité, ce n'est pas possible de se faire, et auto soi-même.
Ouais.
C'est un mécanisme qui a été découvert, figure-toi, par le grand Charles Darwin.
Oui, d'accord.
Quand même, grande personnalité scientifique. Il a découvert que c'est un mécanisme qui empêchait le croisement par soi-même. Alors, si on essaye de creuser un petit peu la question, c'est peut-être pour éviter ce qu'on appelle la consanguinité.
D'accord.
Alors, je suis désolé de parler de consanguinité.
Non,
parce qu'il n'y a pas de sang. Mais c'est pour éviter, en fait, qu'on utilise les mêmes gènes pour soi-même. Et ce qu'on va faire, petit à petit, avec la consanguinité, c'est qu'on va appauvrir, en fait, le matériel génétique.
D'accord.
D'où l'intérêt, en fait, de faire des brassages génétiques.
D'accord. Le cerisier, c'est le seul au niveau des arbres fruitiers, ou il y a d'autres arbres fruitiers qui sont sur ce problème-là ?
Cerisier, prunier, amandier, tout ça sont normalement des espèces allogames, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont besoin d'un autre pied pour pouvoir se croiser. Et parmi les plantes, il y a le chou, il y a aussi la pomme de terre sauvage, il y a plein d'espèces. On estime à peu près à 75% des plantes qui sont auto-incompatibles.
D'accord. Donc tout ça, ça a été ton travail que tu as effectué donc, au Canada. Et puis, tu es rentré en France, et par amour, comme tu me l'écris, par amour de la nature, tu as donc, tu étais rentré donc au chercheur au CNRS.
Tout à fait.
Et tu t'es intéressé, déjà à l'époque tu devais être un précurseur, à la sécheresse et les problèmes donc de sel. Alors pourquoi déjà à l'époque tu t'es intéressé à ce sujet-là ?
Alors effectivement dans ces années-là, on commençait déjà à parler des problèmes de changement climatique.
Hein, on était dans les années 90 ?
On était dans les années 90.
Ça a commencé.
Donc il y avait des gens qui étaient plutôt sceptiques avec ça, mais il y avait quand même des tendances dans la communauté scientifique pour dire, bon voilà, il y a des changements climatiques, donc tout ce qui était sécheresse et salinité, ça allait être des gros gros problèmes, des gros enjeux. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, moi j'avais déjà à l'époque développé des sujets de recherche et sur le transport de l'eau, et puis un peu plus tard sur l'absorption du potassium en relation avec la sécheresse et la salinité.
D'accord. Donc, après, tu parles d'une manière un peu plus précise, mais en somme, tu dis qu'il y a la sécheresse, puis il y a ce problème de sel qui fait que pas beaucoup de plantes résistent à ce problème-là. Donc, quel est ton job, toi, là-dedans ?
Oui, alors, sécheresse et salinité sont liées. Quand il y a moins d'eau, la concentration en sel dans le sol augmente forcément. Parce que quand il y a beaucoup d'eau, en fait, ces sels sont dilués, donc leur effet est beaucoup plus faible que quand il y a moins d'eau dans le sol.
Et donc, là, tu travailles donc précisément en Camargue.
Alors, effectivement, ça, c'est des sujets qui concernent la Camargue, puisque avec le changement climatique, il y a la fonte des glaciers et des calottes polaires, ce qui fait qu'on augmente le niveau des mers. Et donc, en augmentant le niveau des mers, il y a maintenant de plus en plus de risques d'intrusion d'eau salée au niveau des terres, donc par exemple en Camargue. Donc, tout ce qui est, par exemple, riziculture en Camargue, je pense aussi à la viticulture, puisqu'en Camargue, il y a aussi de la viticulture.
Il y a du très bon vin.
Des sables.
Oui, vin des sables, oui.
Exactement. Et bien là, toutes ces cultures-là sont sujettes en fait à des problèmes de salinité dus justement à des intrusions d'eau salée. Et le sel, en fait, pour nous, c'est utile pour notre équilibre osmotique, mais par contre, pour les plantes, c'est extrêmement dangereux pour elles. C'est un vrai poison pour les plantes.
D'accord. Donc, on va faire une pause musicale. Douane, tu as choisi
La mer.
La mer. De Charles Trédé, ça te rappelle quelque chose ?
Ah oui, beaucoup.
Beaucoup. Tu veux nous en parler ou pas ? juste avant qu'on passe la chanson.
Déjà, ça a une relation.
Je vais être un peu mes collègues techniciens.
Voilà, ça a une relation évidemment avec la saninité, hein, puisqu'on vient tout juste d'en parler.
Oui.
Aussi, c'est une très belle chanson d'un très grand monsieur, très grand poète, d'un calme, d'une poésie. On en a beaucoup besoin en ce moment, je pense. Et puis, je voudrais faire une dédicace à ma maman, qui est décédée maintenant depuis un an et demi. Et elle a absolument tenu à ce que ses cendres soient dispersées dans la mer. C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau.
Ok, ben donc à la mémoire, à la maman de Douane, on va écouter donc La Mer de Charles Trenet sur Radio FM+.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la
Voilà, et bien après cette très très belle chanson de Charles Trenet, La Mer, on revient avec Douane, donc sur son métier, donc les plantes, travailler, donc si j'ai bien compris, donc essayer de trouver des plantes qui résistent de plus en plus à la sécheresse et à la salinité.
Oui, tout à fait.
Comment tu procèdes?
Alors, la première des choses, en fait, c'est d'essayer de mieux comprendre ces mécanismes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau de la plante, et en particulier au niveau des cellules des plantes, au niveau des racines, des feuilles, des fleurs, etc. Quand effectivement la sécheresse ou la salinité arrive, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il se trouve que maintenant, depuis quelques années que la communauté scientifique internationale se penche là-dessus, on sait à peu près qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, par exemple, quand il y a la sécheresse ou la salinité, les cellules qui sont normalement gonflées d'eau, puisqu'il y a moins d'eau à l'extérieur, et bien elle se vide en eau, elle se dessèche, elle devient toute flétrie. C'est-à-dire, on le voit très bien hein, dans les feuilles, par exemple, des plantes, hein, elles sont toutes ramollies. Voilà. Donc ça, ce sont des mécanismes qui sont maintenant beaucoup mieux compris. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'une fois qu'on a compris ces mécanismes, on essaye de trouver des solutions soit agronomiques, donc ça veut dire décaler les périodes de culture des plantes, ou bien on essaye de mettre dans les sols des composés qui vont permettre aux plantes de mieux s'adapter à la sécheresse ou à la salinité. Donc par exemple, pour la salinité, ce qu'on sait, c'est qu'on a tout intérêt à mettre un peu plus de potassium, ou de potasse, hein, pour utiliser un terme agronomique, hein, de potasse. La potasse, en fait, elle arrive à contrecarrer les effets délétères du sodium qui se trouve donc dans l'eau salée. Voilà. Alors après, il y a un autre niveau, c'est un niveau plus biotechnologique. C'est-à-dire essayer de voir au niveau des gènes. Donc, et là, je vais peut-être choquer certains, mais en fait, il y a des solutions biotechnologiques, c'est-à-dire en fait avec tout simplement peut-être des plantes transgéniques. C'est-à-dire qu'on va modifier le génome des plantes pour essayer de voir si on peut arriver à les rendre plus tolérantes à la salinité ou à la sécheresse. Donc ce sont les différentes solutions qui sont actuellement investiguées partout dans le monde.
D'accord. Oui, parce qu'on le voit que la viticulture s'adapte, puisque de plus en plus de viticulteurs de chez nous plantent du cépage portugais ou grec qui résiste beaucoup plus à la chaleur que les cépages traditionnels. En plante, vous allez faire les mêmes choses.
Il y a effectivement ça. Si on parle de la sécheresse, il y a un problème plus particulier lié à la sécheresse, c'est qu'en fait, on augmente aussi le taux d'alcool. Dans le vin. On augmente le taux d'alcool dans le vin, donc ça c'est lié à la sécheresse, mais aussi à une quantité d'exposition au soleil beaucoup plus élevée.
Oui.
Donc ça fait des vins beaucoup plus alcoolisés.
Oui.
Donc ça ça peut être un vrai problème aussi.
Oui. Oui.
Voilà. Et en augmentant le taux d'alcool, on a aussi des précipitations, des précipités maintenant qui apparaissent, donc qui altèrent la qualité du vin, et en particulier des précipités de potassium. Mmh. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, d'avoir des cépages où il va y avoir moins d'accumulation de potassium dans les baies, pour pouvoir avoir moins de précipité, donc d'avoir un vin de meilleure qualité? Ça, il faut peut-être investiguer aussi.
Mmh. D'accord. Et au niveau de ton travail sur les plantes, quand est-ce que tu arriveras à avoir une idée fixe, on va dire?
Alors, c'est une question qui est très difficile à répondre. Moi, je sais que je fais des découvertes. Donc, par exemple,
C'est bien.
Merci beaucoup.
C'est une bonne chose.
Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est ça que tu voulais, tu voulais dire. Alors, donc moi, une de mes dernières découvertes avec toute mon équipe, ça a été de voir que des micro-organismes du sol peuvent rendre les plantes plus tolérantes à la salinité. Alors, je m'explique. Les plantes, quand elles poussent dans la nature, en fait, les racines dans le sol, elles ne sont pas toutes seules. Hein. Dans le sol, il y a énormément de micro-organismes. Il y a des bactéries, il y a des amibes, et puis il y a aussi des champignons. Et puis il y a des champignons qui sont aussi bénéfiques. Est-ce que tu sais que 80% des plantes dans le monde sont en interaction au niveau des racines avec des champignons? Donc les fameux cèpes, bolets, tout ça, ce sont les champignons qui interagissent avec les racines des arbres. Et bien pour le riz, par exemple, c'est exactement la même chose. Alors, le riz n'interagit pas avec des bolets, des cèpes et des morilles,
bien
etc.
Sûr, oui,
hein,
oui.
Mais avec
c'est l'image que tu
voilà,
donnes.
Mais avec d'autres champignons qu'on appelle des champignons mycorhiziens. Voilà.
D'accord.
Et ces champignons, en fait, en interagissant avec les racines, vont...
Et qui se trouvent où ils se trouvent donc
dans le sol. Et ce champignon va augmenter la surface d'exploration du sol.
Mm-hmm.
En augmentant sa surface d'exploration, ces champignons vont apporter à la plante de l'eau et des sels minéraux. Donc, par exemple, du potassium, du phosphate, etc. Rendant la plante, elle va mieux se développer. Et la plante, en retour, parce que c'est une symbiose, va fournir aux champignons des sucres qui viennent de la photosynthèse. Donc, ce que j'ai découvert avec mon équipe, c'est que ces champignons-là allaient apporter à la plante plus de potassium que si la plante poussait tout seule dans le sol.
D'accord, d'accord. Alors, je voudrais te faire réagir, Doane, sur la gestion de l'eau. J'avais lu un bouquin il y a une vingtaine d'années où justement l'auteur qui disait que l'eau serait l'enjeu capital du 21e siècle. La gestion de l'eau, le partage de l'eau. Depuis 50 ans, nous allons sur la Lune, on fait des trucs d'enfer, et on n'est pas capable, alors qu'on a 75% d'eau dans le monde, de traiter et recycler l'eau de la mer. Et je voudrais te faire réagir là-dessus.
Donc effectivement, actuellement, on est dans une période, en particulier dans notre région, où on a énormément de problèmes d'eau, hein, ça c'est sûr, par rapport à d'autres régions qui en ont beaucoup trop. La gestion de l'eau, ça passe évidemment par une plus grande sobriété, ça c'est évident. Ça passe certainement aussi par la réutilisation des eaux usées, ça c'est sûr aussi.
Alors ça, tu penses que dans quelques années, on sera amené à utiliser les eaux usées, mais les eaux usées, on aurait déjà dû le faire, comme l'Espagne le fait, je crois, à 13 ou 14% pour l'agriculture.
Tu as tout à fait raison, mais bon, je constate que notre société, il faut qu'on soit vraiment au pied du mur pour qu'on le fasse.
C'est-à-dire voilà. Que... C'est le français, ça. Hein, voilà.
Alors, je te laisse la paternité de cette réflexion.
Oui, je l'assume.
Il y a des pays comme, par exemple, à Singapour. Il faut savoir que Singapour, les habitants de Singapour ont bu plusieurs fois de l'eau qu'ils ont déjà consommée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont bu de l'eau, ils sont allés aux toilettes, et cette même eau, ils l'ont déjà bu plusieurs fois.
D'accord.
Donc
d'accord.
Ça montre bien que la réutilisation des eaux usées dans des zones où il y a des enjeux majeurs, elle peut se faire, ça se fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils réutilisent des eaux usées, mais ils sont obligés quand même de rajouter des sels minéraux dans l'eau pour la rendre potable, parce qu'elle est tellement pure qu'une eau trop pure, en fait, c'est...
Donc, si je t'ai bien compris, Douane... moi, tout à l'heure, je parlais pour l'arrosage des plantes, mais là, si j'ai bien compris tes propos, c'est que dans quelques années, les générations futures seront susceptibles de boire leurs propres eaux usées. C'est ce que tu veux dire,
donc. Moi, j'en suis persuadé, en particulier dans notre région. J'en suis persuadé. La recharge des aquifères ou des nappes phréatiques dans notre région, hein, donc quand je parle de notre région, je parle de tout le pourtour méditerranéen, donc des PO, le Gard, etc. Elle est catastrophique.
Hein. Elle est catastrophique.
Donc un des grands exemples qui est donné actuellement, c'est à Ballaruc-les-Bains. Les thermes sont alimentés avec une source qui provient en fait des plateaux de Melasse. Et donc ce plateau-là est très très peu arrosé, ce qui fait que cette source se tarit. Donc il y a une baisse du niveau. Et comme Ballaruc est à proximité de la mer, qu'est-ce qui se passe ? Ben, l'eau salée de la mer rentre dans la zone. Et donc, actuellement, en fait, cette eau salée, elle est plus lourde que l'eau douce. Donc, en fait, actuellement, on pompe de l'eau douce parce que c'est en hauteur. Mais petit à petit, ça va être remplacé par de l'eau salée.
D'accord. Et est-ce que cette eau salée... Alors, je sais que les Espagnols le font. Je crois qu'à Barcelone, il y a la plus grosse usine, justement, de transformation. Est-ce que nous, en France, on ne peut pas le faire ?
Alors, en écoutant les experts, on trouve que c'est une solution qui peut être pas forcément envisagée économiquement parlant. C'est-à-dire que ça coûte c'est énergivore. C'est-à-dire qu'il faudrait beaucoup d'électricité pour désaliniser l'eau. Alors, cela étant dit, on peut peut-être coupler ça avec de l'énergie solaire. Hein, puisque dans notre région, par exemple, on manque pas d'énergie solaire.
D'accord.
Donc, ça peut être une solution.
D'accord. Donc... Tu es assez pessimiste quand même sur le fait que bon, on sera obligé d'avoir des moyens différents pour que les générations futures puissent quand même se servir de l'eau, on va dire moyennement quoi.
Pour nous habitants, c'est-à-dire pour notre usage, mais aussi pour l'agriculture, hein, c'est quand même pas oublier que nos agriculteurs ont besoin d'eau pour produire notre alimentation et aussi pour l'industrie. Ça, c'est évident. Et il va y avoir, comme tu le disais, des conflits d'usage. Ça, c'est encore une fois, c'est évident. Quand on parle d'un green, d'un golf, par rapport à des piscines, par rapport à des gens qui ont besoin d'utiliser de l'eau, ça, c'est sûr qu'il va y avoir des conflits.
D'accord. OK. Donc, écoute, tu reviendras nous parler un peu de tout ça, surtout de tes travaux sur le sel et sur le riz en pays camarguais.
Volontiers.
Je voudrais, parce que le temps passe, et je voudrais qu'on parle un peu du monde associatif. Tu es énormément intégré dans le monde associatif. Donc, le droit des personnes, je voudrais qu'on en parle, LGBT. Tu as été décoré de la médaille de citoyen d'honneur par l'ancien maire de Montpellier, Philippe Sorel. Donc, moi, je voudrais déjà te poser une question. Est-ce que, il y a une quarantaine d'années, dans les années 80, il était extrêmement difficile de dire qu'on est homosexuel ? Est-ce que, avec les associations, avec la prise de conscience de nous, hein, on va rester sur le plan français, est-ce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de dire qu'on est homosexuel ?
Dans les années 80, c'était un tabou.
C'était voilà, plus qu'un tabou d'ailleurs.
Voilà, donc c'était donc la décriminalisation de l'homosexualité, ça date de 82, si je me souviens bien, hein, sous Mitterrand. Donc effectivement, moi, quand ado, ben, j'ai grandi là-dedans. Hein. Bon, je me sentais déjà homosexuel à cette époque-là. Et donc j'ai passé toute une partie, une grande partie de ma vie, en fait, dans le placard, en disant à personne, même pas à ma mère, mon homosexualité, et donc en quelque sorte je me suis privé de beaucoup de relations de qualité du fait de cette d'avoir caché en fait mon homosexualité. Quand je suis arrivé à Montpellier, donc une nouvelle vie se présentait à moi avec un nouveau poste, et je me suis dit bon ben là il faut arrêter quoi, je veux dire là au niveau professionnel il est hors de question que je cache mon conjoint à mes collègues de travail et tout ça. Et donc c'est à partir de 2002 où j'ai pu enfin sortir du placard et assumer pleinement mon homosexualité auprès de mes collègues au niveau de la société. Mais je me suis rendu compte que il fallait quand même faire un travail de pédagogie, de sensibilisation au niveau de notre société pour que ça soit mieux accepté. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu l'expliquais, en fait, je me suis impliqué au niveau associatif, dans un premier temps dans une association de défense des personnes LGBT, en particulier dans le milieu du sport, qui s'appelle Chemin des Cimes, qui est sur Montpellier et sa région. À l'époque, on était une trentaine d'adhérents, et maintenant, il y a plus de 500 adhérents hein, dans cette association, oui. Multisport, oui. Qui promeut justement la défense des personnes LGBT dans le milieu du sport.
Est-ce que toi, tu as eu besoin d'une association ou de personnes justement qui t'ont aidé quand tu as dit d'une manière ouverte et franche que tu étais homosexuel?
Alors non, j'ai pas eu besoin de cela, mais par contre, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'il y ait des structures associatives qui viennent aider les homosexuels à vivre pleinement leur homosexualité et les sociabiliser. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, moi le premier, qu'on était extrêmement isolés. Hein, socialement, et je me rappellerai toujours en fait d'un témoignage d'un des adhérents de Chemin des Cimes qui venait exprès de Clermont-Ferrand pour participer à certaines randonnées proposées par Chemin des Cimes parce qu'il disait qu'à l'époque, qu'à Clermont-Ferrand, il n'y avait rien qui sentait.
Est-ce que tu penses qu'on avance quand même?
Oui.
Dans le bon sens.
Ah ben c'est évident. La loi déjà le PACS, ça a été une première étape. Deuxièmement, la loi mariage pour tous. Deuxièmement, et troisièmement, la procréation médicalement assistée pour les femmes et les couples, puisque les femmes célibataires.
Vous êtes papa de deux enfants.
Tout à fait. C'est ça. Alors donc nous on est, comme tu peux constater, on est des hommes, donc on n'a pas eu recours à une PMA, procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Mais nous, on a fondé notre famille dans le cadre d'une ce qu'on appelle une coparentalité, c'est-à-dire c'est un couple de femmes ou une femme célibataire qui s'associe avec un couple d'hommes ou un homme célibataire pour fonder famille. Et donc nos deux filles, Clémence et Fleur, sont nées dans ce cadre-là.
D'accord. Et tu es un papa heureux.
Nos filles sont absolument magnifiques hein, et formidables.
Bah, c'est ce que te disent tous les papas de la Terre, hein, Doane. Doane, c'est vrai que le temps passe, on n'a que deux minutes. Je voudrais que tu nous parles, donc tu es administrateur aussi de Game, donc tu es chez toi ici, hein, tu es chez toi. Merci. Et la lutte contre l'exclusion.
Ça c'est un sujet qui me porte à cœur. La lutte contre les discriminations, c'est une chose. La lutte contre ce qu'on appelle la cohésion sociale, les solidarités, ça me semble indispensable dans notre société. Pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut absolument qu'on soit plus solidaires les uns des autres. Il y a énormément actuellement en fait, de précarité, de gens qui sont dans un mal-être, parce qu'au niveau professionnel, au niveau des ruptures familiales, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je pense que ce qu'on fait à Game, surtout ne laisser personne au bord du chemin, c'est vraiment très très important.
Ta conclusion, Don?
Moi, je pense que pour qu'on puisse avoir une société la plus épanouie, qu'on puisse vivre ensemble, il faut que chacun, en fait, s'investisse, qu'on s'implique tous les uns et les autres pour aider les personnes qui sont à côté de nous, mais aussi un peu plus largement les familles, les gens qui sont seuls, etc. Je pense que c'est ça le plus important.
Merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse, pour le respect, pour tout ce que tu nous as parlé, parce que c'est intéressant. Et comme je le disais, il faudra une deuxième émission pour qu'on puisse parler un peu plus. Voilà, quant à moi, je vais vous laisser. Je fais un petit message. Le Kawa Théâtre donc, organise les samedis 20 des pièces de théâtre, les instantanées, du 3 au janvier au 3 février, une semaine, pas plus. Et un mariage follement gay du 11 au 25 janvier, donc au Kawa Théâtre. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Je remercie mes collègues de la technique qui me supportent et c'est pas facile pour eux. Je vous remercie à tous. Passez un bon week-end, un bon après-midi à vous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Si l'on en parlait. Allez, bon après-midi, au revoir.